Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est Warren aujourd'hui qui revient encore avec une nouvelle émission afin qu'on puisse s'entretenir sur des questions d'ordre économique de notre continent africain. Alors, aujourd'hui, il sera question de parler de l'économie, du business comme toujours, parce que, voyez-vous, cette chaîne existe justement pour parler de l'entrepreneuriat, de l'investissement et les business qu'il faut lancer. Donc aujourd'hui, on est ici pour traiter une thématique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de couvrir ce sujet avec vous aujourd'hui, afin qu'on puisse comprendre clairement les enjeux, en fait. Pourquoi est-ce que les produits qui sont vendus localement en Afrique sont plus chers que les produits qui sont venus de l'extérieur? Comment comprendre ce phénomène et comment le changer? Donc, ce qu'on va faire, c'est que les amis, lorsque vous atterrissez sur le live, vous nous mettez un pouce et vous partagez le direct autour de vous. Parce qu'il sera question ici de nous entretenir autour de ce sujet. Et à la fin, il sera question de parler des business que chacun peut lancer à son niveau pour commencer à être un acteur de l'économie en Afrique. Donc, ceci étant, on va le faire. Alors, partagez l'émission parce que ici il sera question de parler de business, d'entrepreneuriat. Donc, on va commencer d'un moment à l'autre. Donc, la première chose déjà à faire, c'est simplement déjà de commencer à partager parce que ce sera aujourd'hui un échange totalement transparent. Et aujourd'hui, justement, il sera question, dans un premier temps, là où je vais donner mes parts de réponse par rapport à ce système. Et également, la deuxième partie sera la partie là où on va échanger mutuellement. Je vais mettre le lien en commentaire là où vous pourriez également participer à cette émission. Parce que comprenez bien une chose, c'est que cette émission ce n'est pas un monologue en fait. Ce n'est pas du tout un monologue, mais c'est dans un sens là où on vient ici pour débattre nos propres problèmes, c'est-à-dire les problèmes qui minent l'économie africaine. Et ce que nous on fait à notre niveau, justement, c'est d'apporter les solutions à ce problème, justement. Donc, la première chose à faire déjà, c'est que partager massivement afin qu'on soit nombreux aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça dont il est question, les amis. Il est question de faire en sorte que nous, les Africains, on puisse construire une économie qui soit solide. Mais comment est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire simplement par la nécessité de la création des business, par la nécessité de l'entrepreneuriat. Et je m'inscris toujours en faux sur les gens qui pensent toujours que pour entreprendre, il faut forcément un grand budget. Entreprendre, lorsque tu commences, justement, ça va dans le sens là où parfois tu te lances avec le peu que tu as. Mais au fur et à mesure que tu grandis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir développer ton business au fur et à mesure. Et aujourd'hui, justement, comme je le disais, on va parler justement de ça. On va parler du fait que pourquoi est-ce que, avec tout ce qu'on a comme ressources, on est toujours en train de patauger, en fait. Pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un crée un business au pays, son business, pourquoi pas, ne marche pas comme il devrait marcher alors qu'on a on a un pouvoir d'achat extraordinaire, mais on a comme l'impression que lorsque quelqu'un monte une entreprise, les populations, pourquoi pas, peut-être ne comprennent pas clairement l'enjeu de soutenir le business de la personne, ou encore, beaucoup de personnes ne comprennent pas combien est-ce qu'il est important pour ce dernier de comprendre les nécessités pour lui quand il lance son business. Je suis en train de partager, donc vous aussi, s'il vous plaît, partagez le direct et une chose, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, notamment Warren et Asiana et Guerrier Mental, et likez la page et partagez le direct. Donc, merci Erwin, j'espère que tu vas bien, mon frère. Et j'espère que tu pourras participer aujourd'hui à ce direct parce que je sais que toi-même aussi, tu es un entrepreneur en gestation. Donc, ce serait intéressant si, pourquoi pas, au bout d'un certain temps, tu nous rejoignes dans cette émission afin qu'on puisse échanger ensemble. Voilà. Donc là, je suis toujours en train de partager avant qu'on ne commence. Donc, vous aussi, partagez afin qu'on puisse clairement grandir ensemble dans cette aventure entrepreneuriale. Parce que voyez-vous, entreprendre, en fait, c'est, Entreprendre, il faut comprendre une chose, c'est que entreprendre, c'est un voyage. Et c'est un voyage avec plusieurs processus. Et dans ce voyage, ce qui est intéressant, c'est que dans ce voyage, ce n'est pas le résultat qui compte, mais c'est le voyage avec tous les processus que ça apporte en fait. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il était prévu que je devais parler d'un autre sujet. Mais quand j'ai vu cette thématique-là et il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là, je me suis dit que pourquoi pas, il faut clairement en parler. Alors, sur ce, on est parti. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, déjà, je vais parler de façon imagée parce que je préfère souvent parler de façon imagée afin que les gens comprennent bien pour que ce soit facile pour tout le monde. Alors, une chose qu'il faut comprendre d'emblée, c'est que quand quelqu'un lance un business, notamment, on va d'abord rester dans le contexte africain. Quand quelqu'un lance un business en Afrique, il faut clairement comprendre une chose, c'est que lorsque quelqu'un lance un business en Afrique, il lance son business avec ses moyens, comme on dit vulgairement au quartier, les moyens de bord. Quand quelqu'un lance un business en Afrique, il lance un business avec ses moyens de bord. Ce qui fait que, au bout d'un certain temps, quand il lance son business avec ses moyens, c'est-à-dire ses propres fonds, au bout d'un certain temps, la personne, lorsqu'il lance son business, ce que la personne attend, c'est d'avoir une certaine rentabilité dans son business. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Quelqu'un, par exemple, dans ton quartier, il y a une entreprise dans ton quartier. Ce que toi, tu fais, c'est que tu constates une chose, c'est que les gens qui travaillent dans cette entreprise, la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont obligés souvent de parcourir parfois des mètres et des mètres pour trouver un restaurant pour manger. Mais maintenant, ce que toi, tu fais, c'est que au bout d'un certain temps, tu peux réfléchir à dire que non, alors que les personnes là vont à chaque fois manger loin, 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 ce que moi, je peux faire, c'est que moi, je vais ouvrir une petite structure de restauration juste devant chez moi, c'est-à-dire j'achète une tente, je mets des chaises et je prépare à domicile. Ce qui va faire quoi? Ce qui va faire que au bout d'un certain temps, les personnes qui travaillent dans l'entreprise qui est juste en face de chez toi, en fait, tu leur rends la tâche facile dans le sens là où ils ne vont plus se déplacer à chaque fois pour aller manger ailleurs. Ce qu'ils vont simplement faire, c'est qu'ils vont simplement venir chez toi consommer ta nourriture et au bout d'un certain temps, ce qui va arriver, c'est que tu vas clairement couper au bout d'un certain temps le marché de les personnes qui avaient le grand restaurant et qui au bout d'un certain temps avec beaucoup plus de clientèle. Au bout d'un certain temps, ce que ça va donner, c'est que toi, lorsque tu vas lancer ton business, tu vas résoudre un problème immédiat parce que les gens, au bout d'un certain temps, les gens se fatiguaient par rapport au fait que les gens là, eux, ils voulaient manger le plus tôt possible. Mais au bout d'un certain temps, ce qui se passe, c'est que comme il n'y avait pas un restaurant dans les environs, ils étaient obligés de marcher. Et c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat artisanal. C'est l'entrepreneuriat là où tu utilises tes propres fonds pour créer un business. Et lorsque tu crées ton business, au bout d'un certain temps, tu es obligé de taxer les prix à un certain niveau. En fait, tu veux faire une marge. Je m'explique. Par exemple, si le restaurant du quartier fait son plat, par exemple, à 500 francs, toi, lorsque toi, tu ouvres ton business à domicile, toi, tu vas, par exemple, faire ton plat à 1000 francs. Au bout d'un certain temps, tu ne peux pas avoir les mêmes réalités que celui qui a déjà un grand restaurant. C'est la raison pour laquelle, au bout d'un certain temps, celui qui vend de façon locale taxe ses prix plus cher parce que lui, il utilise ses propres fonds. C'est ce qu'on appelle faire de l'artisanal, faire de l'entrepreneuriat artisanal. Et c'est ce que nous, on sait beaucoup plus faire chez nous en Afrique. C'est-à-dire, on fait beaucoup plus dans l'artisanat dans l'entrepreneuriat artisanal. J'y arrive. Alors, il y a Armel qui dit, OK, je vais mettre ça en profil pour que tout le monde regarde bien. Il faut faire une étude des marchés, que si ça nécessite la compréhension sur le manque, sur les manques de la communauté. Justement, je suis d'accord avec toi. Il faut au préalable d'abord faire une étude de marché, justement. Là, je parle du fait que si l'étude de marché a été déjà faite, au bout d'un certain temps, quand vous voyez beaucoup de personnes se lancer dans des business et qu'au bout d'un certain temps, vous réalisez que les business que les gens font au quartier, la plupart du temps, sont souvent trop chers. Mais la raison est simple. C'est que Lorsque les gens se lancent, ils se lancent avec leurs propres moyens. Et quand ils se lancent avec leurs propres moyens, ils veulent avoir une certaine marge de rentabilité lorsqu'ils se lancent, en fait. Et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, beaucoup de ces personnes-là essayent de retrouver justement les gains qu'ils ont dépensés lorsqu'ils se sont lancés. Mais non, il y a une différence entre l'entrepreneuriat artisanal et l'entrepreneuriat industriel. Et c'est là où souvent le bât blesse justement. C'est que beaucoup de personnes, lorsqu'ils font, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez constaté, c'est que les produits qui viennent de l'étranger, lorsqu'ils rentrent chez nous en Afrique, automatiquement, ils sont moins chers par rapport à celui qui se débrouille dans le même domaine. Mais au bout d'un certain temps, par exemple, si on prend simplement le contexte des chips, on va dire ça comme ça, un paquet de chips peut coûter environ, je vais dire ça comme ça par exemple, 200 francs. C'est-à-dire, quand ça vient de l'étranger, ça coûte 200 francs. Mais s'il y a quelqu'un qui fait le paquet de chips en Afrique de façon locale, il va faire son paquet de chips, par exemple, à 500 francs. La raison est toute simple, c'est que la personne qui fait ça à 500 francs, elle part du principe qu'elle cherche une certaine marge lorsqu'elle veut vendre son produit. Mais non, celui qui vend le produit à 200 francs et qui revient de l'étranger, il faut comprendre une chose, c'est que, encore une fois, beaucoup de personnes, eux, ils voient seulement le côté là où le produit est déjà fait, mais ils ne regardent pas tout ce qui peut faire en sorte que comment est-ce que le produit a été fait, en fait. Je m'explique. Lorsque vous voyez une entreprise qui rentre en Afrique avec un produit qui se vend déjà de façon locale, avec les réalités du marché, ce qui se passe souvent, c'est que lorsque un étranger vient avec un produit et qu'il décide de vendre ça de façon locale, ce qui va souvent se passer, c'est que la personne qui vient vendre avec les produits qui viennent de l'étranger, lui, pourquoi est-ce qu'il vend ça moins cher, en fait? Il faut comprendre une chose. Ça, c'est maintenant la partie là où on parle de l'entrepreneuriat industriel. Je m'explique. Il faudrait que vous puissiez être bien attentifs parce que je vais expliquer quelque chose de très important. Le problème, c'est que celui qui fait face aux réalités du fait que il revient de l'étranger avec tout le pouvoir qu'il vient, c'est-à-dire il vient déjà, les produits sont déjà faits, sont déjà étiquetés, sont déjà packaging, etc., etc., sont déjà bien faits. Ce que lui, il vient simplement faire, c'est écouler la marchandise dans le marché. Mais maintenant, comment est-ce que le processus là justement se fait? C'est que celui qui vient en Afrique avec des produits déjà tout faits, c'est parce qu'il a une équipe d'investisseurs derrière. Il a une équipe d'investisseurs derrière. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, salut Guerrier, j'espère que tu vas bien, frère. Merci beaucoup, merci. Donc, n'oubliez pas de partager le direct, les amis. Il faut qu'on soit nombreux parce qu'après, je vais donner la parole à tout le monde et puis chacun pourra intervenir et donner son point de vue après mon postulat. Voilà. Donc, celui qui vient avec des produits déjà faits en Afrique, ce qui se passe souvent, c'est que au bout d'un certain temps, ses produits sont moins chers. Pourquoi? Parce qu'il a des investisseurs derrière lui. Et les investisseurs derrière lui ont déjà financé le projet. Et comme ils ont déjà financé le projet, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, la personne, lorsqu'il arrive en Afrique avec des produits, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, puisque son pouvoir d'achat est très faible, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, il va rafler tout le marché qu'il va trouver, en fait. Alors que les personnes qui faisaient la même activité en Afrique, qui essayaient de faire ça avec un seuil de marge, ne pourront pas faire le poids. Parce que justement, celui qui vient avec des produits déjà faits à l'étranger, lui, il a une équipe d'investisseurs derrière lui qui ont déjà investi sur le produit, qui ont déjà préparé le produit. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, écouler la marchandise ne devient plus une difficulté, en fait. Mais la vraie question est celle de savoir comment est-ce qu'il a fait pour avoir des investisseurs derrière lui. Et c'est là où souvent, nous, les entrepreneurs africains, souvent, c'est là où on pêche. Je m'explique. Ce qui se passe souvent, nous, avec les entrepreneurs africains, c'est là où on pêche souvent, c'est que au bout d'un certain temps, quand on lance des produits, là, très peu d'entre nous, beaucoup d'entre nous ne veulent pas se faire accompagner dans les business qu'ils lancent. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe souvent, mais il y a ce syndrome-là, là où du genre, on pense toujours que c'est comme si quelqu'un va me voler mon idée, c'est comme si quelqu'un va me voler mon projet. Et au bout d'un certain temps, ceux qui comprennent la nécessité pour eux de parler de leur business autour d'eux, ce sont ceux-là qui ont plus de force, qui ont plus d'opportunités d'atteindre le plus grand nombre d'investisseurs. Et souvent, quand je discute avec des gens, les gens ont toujours tendance à dire que, mais attention, je ne veux pas parler de mon business parce que j'ai peur qu'on me vole l'idée. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ton projet, peu importe la façon dont tu le conceptualises, personne ne va te voler ton idée. Parce que il y a beaucoup de personnes, et il faut bien comprendre une chose, c'est que l'idée que tu as déjà en place là, quelqu'un a déjà mis ça, quelqu'un avait déjà pensé à ça quelque part. Mais ce qui fait la différence avec les autres, c'est la valeur ajoutée que toi, tu vas apporter dans ton produit, en fait. Et ce qui va faire en sorte que même si vous êtes nombreux sur la même industrie, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va venir acheter chez toi? Ça, c'est ce qui, c'est vraiment important de le comprendre dans la communauté. J'ai été confronté au même problème avec un monsieur noir américain ici que je coach ici. Il a une ligne de vêtements. Ça, c'est vraiment une histoire vraie. Il a une ligne de vêtements et c'est quelqu'un qui suit beaucoup ce que je fais, notamment sur YouTube et sur Facebook. Et du coup, la personne m'a contacté pour un travail. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a parlé de sa ligne de vêtements, c'est quelqu'un qui avait déjà trouvé même des investisseurs parce que son propre investisseur, c'était son propre beau-frère, le frère de sa femme. Le monsieur, son beau-frère a apprécié justement son travail et son beau-frère a voulu mettre de l'argent à l'intérieur. Il a refusé parce qu'il s'est dit non, je n'ai pas envie qu'au bout d'un certain temps, quelqu'un d'autre puisse prendre mon idée et puis si ça ne marche pas, on va se séparer en queue de poisson, comme on dit vulgairement, et ça ne va pas marcher et du coup, je préfère d'abord rester dans mon business comme ça. Et quand on a discuté justement, je lui ai dit que tu te rends quand même compte que là, tu viens de rater clairement de l'argent en fait. Il m'a dit non, mais comment ça, que veux-tu dire? Et j'ai dit non, en fait, tu viens de rater de l'argent dans le sens là où il y avait un investisseur qui était prêt à faire en sorte que ton produit puisse commencer à évoluer. Mais toi, tu as clairement refusé l'argent parce que quoi, tu ne veux pas comprendre la nécessité pour toi de faire évoluer ton business. Et c'est ce souvent qui nous bloque dans la communauté, c'est parce qu'au bout d'un certain temps, quand on lance des produits, on veut être au four et au moulin. On ne comprend pas la nécessité du fait que, OK, tu as lancé ton business, tu as lancé ton produit, mais ça ne veut pas dire que tu dois contrôler tous les aspects du business, en fait. C'est-à-dire, si on veut arriver à comprendre le phénomène du fait que pourquoi est-ce que les produits locaux sont autant chers et pourquoi est-ce que les produits qui viennent de l'étranger sont moins chers, c'est simplement par rapport au fait que les étrangers, quand ils arrivent chez nous en Afrique, ce qu'ils font, c'est que, j'ai envie de dire ça comme ça, ils sont déjà en bande organisée quand ils viennent dans le marché africain. C'est la raison pour laquelle nos produits locaux ne peuvent pas faire le poids, en fait. Parce qu'eux, ils viennent déjà en bande organisée. Et comme ils viennent déjà en bande organisée, c'est très facile pour eux d'acquérir le marché, en fait. Et nous, justement, ce que nous, on doit faire, c'est que lorsque quelqu'un a un produit qui a l'air prometteur dans la communauté, et ça, je le répète, lorsque quelqu'un a un produit prometteur dans la communauté, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'associer autour du projet de la personne qui a lancé son projet pour que nous tous, on est capable d'investir notre argent à l'intérieur. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que au bout d'un certain temps, si on ne comprend pas la nécessité pour nous de mélanger nos fonds ensemble pour investir sur un projet qui a l'air prometteur, on ne pourra aller nulle part. Et souvent, quand je parle ici souvent de faire en sorte que les Africains doivent s'unir pour entreprendre ensemble, beaucoup de personnes pensent peut-être que c'est une vue de l'esprit. Mais je vous assure que c'est la seule voie par laquelle on peut arriver à créer des économies fortes. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que si on continue à partir avec la technique de un mouton, trois pelés, ce qui va arriver, c'est qu'au bout d'un certain temps, beaucoup d'entre nous, en fait, nos business ne vont en fait évoluer que dans le sens de l'économie de la survie, en fait. Alors que ici, il n'est pas question d'entreprendre pour la survie. Il faudrait qu'au bout d'un certain temps, lorsqu'on décide de lancer notre business, on doit se dire que, OK, on commence petit, Mais au bout d'un certain temps, même en commençant petit, il faudrait que, excusez-moi, il faudrait qu'au bout d'un certain temps, même quand on commence petit, on doit avoir la vision de grandir à long terme. Comme disent les Américains, you cannot just think small. You have to escalate your business sometime. Donc, au bout d'un certain temps, tu dois comprendre la nécessité pour toi de commencer petit d'abord. Et comme dit exactement Erwin, c'est que les chiffres ne mentent pas. Justement, je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens là où les chiffres ne mentent pas. Parce qu'au bout d'un certain temps, si tu as un business qui a l'air prometteur, parle-en autour de toi. Ne sois pas individualiste dans le sens là où tu penses peut-être que non, les gens vont te voler leur idée. Non. Il faut comprendre une chose, et ça, j'ai suivi ça d'un entrepreneur sud-africain qui a dit quelque chose de très important la dernière fois, c'est que dans le monde entrepreneurial et dans le monde du business, tout a été déjà créé. Je répète, tout a été déjà créé dans le monde du business. Mais non, ce que nous, on est simplement en train de faire, c'est que on est en train de rajouter simplement nos touches personnelles à ce qui a été déjà fait. Et même, au bout d'un certain temps, quand tu veux créer ton business, il faut clairement comprendre une chose, c'est que si tu es intéressé à un produit, il a expliqué une technique très intéressante et que je trouve vraiment vraie. C'est, il a appelé la technique là, la technique de CAS. Ça veut dire copy and paste everything. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es intéressé à un business qui te plaît et que tu as vu ça chez quelqu'un quelque part, au lieu de vouloir à chaque fois vouloir te dire que non, j'ai envie de créer l'idée révolutionnaire qui va peut-être changer le monde. En fait, c'est dangereux de souvent se lancer dans ce genre de choses, en fait. Ce que tu dois simplement comprendre, c'est que si tu es intéressé par un business que tu as vu quelque part, si toi, tu veux refaire la même chose, la seule question que tu dois te poser, c'est que quelle est la valeur ajoutée que je vais apporter dans mon business? C'est aussi simple que ça. C'est quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter dans mon business pour qu'au bout d'un certain temps, si je veux arriver à éviter le fait qu'on est toujours en train de nous dire que non, les produits locaux sont autant chers. Mais justement, les produits locaux sont chers. Pourquoi? Parce que justement, les entrepreneurs qui se lancent dans le contexte africain, justement, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui partent de la base qu'ils mettent d'abord leurs propres fonds à la base quand ils lancent leur business. Et quand ils mettent leurs propres fonds à la base, c'est normal qu'au bout d'un certain temps, ces derniers veulent d'abord avoir la rentabilité. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont en Afrique, au bout d'un certain temps, ils se disent toujours que non, moi je préfère directement aller payer un produit Nestlé que de prendre directement un produit qui est déjà tout fait avec mon frère africain. Mais au bout d'un certain temps, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là justement? On résout ce problème-là, du moins, ça c'est mon point de vue, par l'unification des entrepreneurs africains. Parce que quand les Africains vont s'unir sur la base des mêmes projets, sur la base du même mindset, là maintenant, on pourra commencer à réajuster les prix du marché, de l'économie en fait. Là maintenant, on pourra clairement arriver à faire en sorte qu'au bout d'un certain temps, comment est-ce qu'on peut arriver à revoir les prix à la baisse. Mais tant qu'on n'a pas encore résolu ce problème-là, c'est la raison pour laquelle les produits sont toujours autant chers. Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile pour les entrepreneurs de vraiment s'en sortir parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs dans la communauté, ils font l'entrepreneuriat par survie. Et le but ici, c'est qu'un entrepreneur ne doit pas seulement entreprendre pour la propre survie, parce qu'un entrepreneur qui entreprend juste pour la survie, c'est un entrepreneur qui vit en danger permanent dans son business. Ça veut dire en fait qu'au bout d'un certain temps, si tu penses qu'entreprendre pour toi, c'est juste nourrir ta famille, mais tu es en danger. Parce qu'au bout d'un certain temps, lorsque ton business va prendre un coup, ce qui va arriver, c'est que tu es tellement fragile lorsque tu entreprends simplement pour la survie. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à changer le mind qui puisse faire en sorte qu'on ne soit plus des entrepreneurs par survie, mais on soit des entrepreneurs qui arrivent à bâtir des empires? Pour qu'on arrive à cela, ça passe unilatéralement par l'unification des entrepreneurs. Il faudrait que les entrepreneurs puissent s'unir pour entreprendre ensemble. Tant qu'on ne va pas s'unir ensemble, ce qui va arriver, c'est que beaucoup d'entre nous vont réussir. Il y aura un semblant de réussite dans les business de chacun. Mais ce qu'on cherche, ce n'est pas simplement d'abord la réussite, mais c'est l'impact. C'est l'impact qu'on cherche lorsqu'on lance un business. On cherche d'abord à impacter les gens. Certes, on a réussi, mais au bout d'un certain temps, on cherche à impacter le plus grand nombre. Parce que quand on a impacté le plus grand nombre, là, on peut déjà commencer à se dire que là, le résultat a été atteint. Et c'est de ça dont on cherche dans la communauté, en fait. Les gens qui s'unissent ensemble pour créer des business ensemble. Alors, les amis, je viens de mettre le lien en commentaire s'il y a des gens qui veulent participer afin de donner leur point de vue sur la question, parce que je pense que c'est une question qui incombe à tout le monde. Parce que je pense clairement, ce qui est tellement dans ce direct ou les gens qui vont tomber dans ce direct-là, il y a des personnes qui veulent lancer des business, mais ils sont souvent confrontés à ce sujet-là, là où du genre, oui, mais on nous dit que nos produits sont trop chers. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à résoudre ce problème? Et puis aussi, la deuxième part de solution aussi, c'est que si on veut arriver à limiter les coûts des produits au pays, sur place, c'est qu'on doit favoriser et on doit encourager les secteurs, c'est-à-dire les gens qui entreprennent. Trop d'entrepreneurs sont seuls dans leur projet. Et quand ils sont seuls dans leur projet, ce qui arrive, c'est que malheureusement, au bout d'un certain temps, puisque la personne a souffert dans son projet, ce que lui veut faire à la base, c'est d'abord récupérer tout ce qu'il a dépensé, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que, si on veut changer les choses, si on veut arriver à ce que on puisse renverser la tendance, c'est la raison pour laquelle on doit arriver à réfléchir. Et par le fait de réfléchir, dans le fait de trouver des solutions à ce problème, ça passe d'abord par le fait de se poser des bonnes questions. Pourquoi les produits locaux en Afrique sont plus chers que ceux venus d'ailleurs? C'est la raison pour laquelle je pose la question. Comment le comprendre? Et que faut-il faire pour changer ce phénomène qui tue l'économie africaine? Donc, les amis, le lien est là. Le lien est déjà là. Donc, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien afin qu'on puisse avoir, on puisse passer un moment agréable et d'échange aussi, parce que le but ici, c'est pas que ce n'est sûrement pas un monologue. Donc, le but ici, c'est de faire en sorte qu'on puisse échanger sur les problèmes qui minent la communauté noire, qui minent le peuple africain, afin qu'on puisse arriver à trouver des solutions. Parce que ici, aujourd'hui, il y a des gens qui ont de très bons projets, il y a des gens qui ont de très bonnes idées, mais qui sont encore à l'état de projet, je vais dire ça comme ça, parce que beaucoup d'entre nous, on a peur de se lancer, on a peur du regard de l'autre, oui, parce qu'on est toujours esclave de ce que l'autre va penser, on est toujours esclave de ce que l'autre va dire, mais alors qu'au bout d'un certain temps, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait des gens qui se lancent. Plus les gens se lancent, plus on peut arriver à trouver les résultats. Alors, il y a Guy Roger qui pose une question intéressante, on va le mettre en commentaire, il dit, une bonne question. Comment trouver des investisseurs? OK. Comment trouver des investisseurs? C'est une très bonne question. Déjà, pour commencer, ce que je peux dire d'emblée déjà, c'est que lorsque tu lances un business, tu ne peux pas aller trouver des investisseurs avec des idées. Les gens ne financent pas les idées. Ou encore même les banques, même quand tu vas même à la banque, quand tu veux lancer un business, la banque ne va pas financer ton idée, en fait. Tu dois présenter tes chiffres à la banque ou encore si tu as des patrimoines ou encore ce qu'on appelle notamment en anglais des assets. Si tu as déjà des assets, le truc, c'est que la banque va te financer et toi, tu vas montrer tes assets. Et quand tu vas montrer tes assets là, les assets là vont être sous forme de garantie au cas où les choses tourneront mal dans ton business. C'est aussi cruel, mais c'est la réalité. C'est que les banques vont te financer s'ils voient d'abord le patrimoine que tu as. Mais maintenant, si tu ne veux pas aller au niveau des banques et que toi, tu as besoin des investisseurs dans ton business, ce que moi, je te conseillerais, c'est que l'évidence, c'est qu'il faut d'abord que tu commences. Parce que les gens, eux, ils préfèrent financer quelque chose qui a déjà des chiffres. Le problème, c'est que beaucoup de personnes sont frustrées par rapport au fait qu'eux, ils veulent qu'on finance leurs idées. Alors que, vous savez, la plupart du temps, les gens avec leurs idées peuvent changer le monde. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ici, beaucoup de personnes ont des idées qui peuvent même changer le monde. Mais c'est toujours à l'état des idées. Alors que, un investisseur, il ne finance pas une idée. L'investisseur finance ce que toi, tu as déjà commencé. Ça veut dire que, par exemple, je prends un exemple simple encore pour bien illustrer mon propos. Celui qui veut, par exemple, se lancer dans le e-commerce, parce que ça, c'est un domaine dans lequel on est justement en train de se positionner déjà et qu'on a déjà commencé à bien se positionner, c'est que quand tu veux te lancer, par exemple, dans le e-commerce et que tu veux vendre des produits, au bout d'un certain temps, tu sais très bien que pour te lancer dans le e-commerce, il faudrait d'abord que tu aies d'abord une base. C'est-à-dire, il faut d'abord que quand tu vas voir l'investisseur, il voit d'abord les chiffres que tu as déjà commencé à faire, notamment sur Amazon, pour qu'au bout d'un certain temps, si tu veux maintenant ouvrir une plus grande boutique et que tu veux maintenant vendre ton propre brand, au bout d'un certain temps, l'investisseur va d'abord voir ce que tu as d'abord fourni comme chiffre. Et c'est sur la base des chiffres que tu as déjà produits que l'investisseur va se dire que oui, voilà quelqu'un que je peux faire confiance. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes, ils font un business plan, ils calculent, ils font des calculs. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la réalité du papier et la réalité du terrain, c'est deux choses totalement différentes. Et c'est la raison pour laquelle j'avais même dit ça dans une de mes vidéos sur YouTube, notamment sur le fait que l'entrepreneur, en fait, dans la société, il est considéré comme étant celui-là qui est En fait, l'entrepreneur est considéré comme étant un repris de justice dans la société. Il y a Erwin qui dit, ça ne donne pas à celui qui n'a rien. Et bien évidemment, c'est-à-dire que l'investisseur et les banques ne donnent pas à celui qui n'a pas. Il faut d'abord que tu aies d'abord une base quelque part pour que l'investisseur puisse te faire confiance. Je vais illustrer ça par le propos, par les gars qui ont créé Instagram. C'est-à-dire, ces deux personnes, deux développeurs, lorsqu'ils ont créé Instagram, à la base, eux, ils étaient intéressés par la photo, par la photographie. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain temps, lorsqu'ils ont lancé Instagram, eux, leur but, c'était de faire en sorte que quand les gens vont en vacances, ils créent des souvenirs à travers des photos, ils immortalisent les instants. Mais au bout d'un certain temps, les gens ont commencé à aimer leurs travaux, en fait. Et ce qu'ils ont fait, c'est que le premier format d'Instagram, c'était simplement un format là où les gens venaient simplement poster leurs photos et puis aimer et puis faisaient des commentaires. Mais au bout d'un certain temps, les gens ont commencé à aimer le contenu et c'est sur cette base du fait que les gars d'Instagram avaient déjà conçu quelque chose de la base, qu'ils ont rencontré leur ami qui est devenu investisseur, qui leur a donné l'argent pour commencer à financer leur projet. Donc, ceci pour dire qu'au bout d'un certain temps, celui qui a d'abord le projet, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent dans leur poche, ils ne peuvent pas financer les idées. Il faudrait que les gens financent des projets. Donc, voilà. Alors, Erwin, salut Erwin, comment tu vas?
À merveille, bro.
Mais on comme te voit toujours. Pas. Est-ce que tu peux allumer ta caméra, s'il te plaît?
Bon, en fait, parce que je suis dans le noir. Je suis dans le noir et puis la lumière n'est pas assez forte dans la maison.
Ok, d'accord. Ok, pas de souci. Alors, quelle est ta part?
Bon, d'abord, pour te féliciter pour ce que tu fais, quoi. C'est vraiment, c'est pas un travail facile, mais c'est bien d'éveiller déjà les consciences, quoi.
Merci.
Ok, donc, moi, la seule préoccupation, je sais pas.
Allô? Allô? Oh, je pense qu'on a un problème de son avec Erwin. Je ne sais pas ce qui se passe. Ben, écoute, Erwin, reviens-nous quand tu veux. Hein. Je crois qu'il y a un problème au niveau du son. reviens-nous quand tu veux. Ah, c'est dommage. Alors, on va continuer. Il y a John Lou qui dit cela, on va mettre ça en profil. C'est-à-dire, il dit, cela dépend des projets et la façon dont le projet est présenté. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que tout dépend du projet et la façon dont parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que lorsque tu vas présenter ton projet à des investisseurs, il faut comprendre une chose, c'est que tu vas dans le sens de leur convaincre. Et si tu n'es pas convaincant, mais en fait, j'ai envie d'aller plus loin en disant que il faut que tu crois en ton projet d'abord toi-même. Parce que c'est une lutte de faire en sorte que les gens puissent investir sur ton projet. Mais si d'abord toi-même, d'abord tu n'es pas convaincant, mais ne te pose pas des questions si les gens n'investissent pas dans ton business. C'est aussi simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle chez nous en Afrique, on arrive au niveau là où les produits locaux sont autant chers parce que justement, les entrepreneurs qui se lancent sans aide en fait. Ou encore, beaucoup d'entre nous n'ont pas encore compris la nécessité pour eux d'aller voir des investisseurs ou encore ceux qui ont des moyens. Parce qu'il faut comprendre, peut-être que je ne l'ai pas bien spécifié, mais dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui créent des business, il y a ceux qui font rouler des business, il y a ceux qui font promouvoir les business et il y a ceux qui financent les business. Le truc, c'est que il y a des gens parfois qui ont les moyens, mais qui ne savent même pas qui peut devenir des investisseurs dans des business. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne savent même pas quoi faire avec leur argent, en fait. Et justement, j'ai créé justement une formation là-dessus, là où je parle de comment est-ce que tu peux arriver à devenir un investisseur, justement. C'est-à-dire, au lieu de prendre ton argent pour aller dans les boîtes de nuit avec ça, ou encore prendre ton argent pour financer à chaque fois les sorties des petites, comme on dit ça chez nous au quartier, ou encore simplement avoir plusieurs bureaux avec ton argent, pourquoi est-ce que tu ne peux pas arriver à faire fructifier ton argent en devenant simplement un investisseur. Parce que il y a des jeunes dans la communauté noire qui ont des projets excellents, qui nécessitent parfois le fait que ils ont besoin d'investisseurs. Mais toi qui as de l'argent, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Parce qu'au bout d'un certain temps, si on veut arriver à compétir avec les autres, si on veut arriver à ce que les autres puissent arriver à compétir avec nous, il faut qu'on se prépare. Et il faut qu'on se prépare bien. Parce que si on ne peut pas bien se préparer, ce qui va arriver, c'est que le combat, en fait, le combat sera toujours déloyal. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque ces personnes-là vont emmener leurs produits pour les commercialiser chez nous en Afrique, ce qui va arriver, c'est que les produits seront toujours aussi chers. Qui va en pâtir par rapport à cela, ce sera la main-d'œuvre de chez nous, en fait. Donc, Guy Roger, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais dans tous les cas, n'hésite pas à me contacter inbox si tu veux avoir plus ample information. Mais comme je disais, le but, c'est que comment trouver des investisseurs? Alors, comment trouver des investisseurs? Simplement, d'abord, c'est que si tu as déjà une base, si tu as déjà un projet, la première chose à faire d'abord, simplement, c'est d'abord d'exposer davantage. D'abord, comme je disais, c'est-à-dire, tu dois d'abord exposer davantage ton projet et tu dois parler d'abord au plus grand nombre autour de toi. Parce que personne ne peut financer quelque chose qu'il ne connaît pas, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au bout d'un certain temps, tu veux arriver à toucher plusieurs personnes, il faudrait aussi que tu puisses communiquer davantage sur ton business et que les gens savent également aussi ce que tu fais. Parce que plus les gens vont connaître ce que tu fais, plus ils seront plus aptes à vouloir participer à ton projet. Mais quand les gens ne connaissent pas ce que tu fais, ne leur demande pas d'investir leur argent à l'intérieur parce qu'ils ne savent même pas dans quoi ils vont se lancer. Et justement, c'est des communications comme des émissions comme ça, là où je donne souvent l'occasion à des entrepreneurs de venir parler de leur business. Parce que justement, je comprends la nécessité de la visibilité. Si ton produit n'est pas visible, même si les gens attendent ton produit, mais si ton produit n'est pas visible, il y aura même pas de potentiels investisseurs là-dedans. Il faut d'abord clairement que ton produit soit visible. Il faut en parler autour de toi parce que à force d'en parler, ce qui va se passer, c'est que les gens vont clairement vouloir participer à ce projet. Et au bout d'un certain temps, il y a aussi le côté là où quand tu veux présenter ton business à quelqu'un, est-ce qu'aujourd'hui, et là je parle de ça par rapport à tous les entrepreneurs qui sont sur place là sur le live et ceux qui vont tomber sur le live, c'est que est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de présenter ton business en une seule phrase? Parce que je prends un exemple simple. Par exemple, parce que ceux qui ont l'argent, la plupart du temps, les investisseurs, on va dire ça comme ça, qui ont l'argent, ce sont des personnes qui sont toujours occupées. Mais si, par exemple, on te disait que tu as une minute pour convaincre quelqu'un à investir dans ton business, est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu es capable de présenter ton produit en une seule phrase ou en quelques phrases? Ou encore, est-ce que ton enfant qui a 5 ans, 6 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans est capable de connaître quel est ton produit? En quelques phrases, on ne te parle pas du fait qu'il faut commencer à détailler des paragraphes, jusqu'à ce que tu vas même perdre l'investisseur. À la base, il ne saura même pas ce que tu fais, en fait. Est-ce que tu es capable de présenter ton produit en quelques phrases? Ça veut dire en grosso modo deux phrases. Est-ce que tu es capable de présenter ton produit? Parce que j'aime souvent prendre cet exemple-là. Par exemple, si tu veux aller rencontrer un investisseur et que tu as attendu dans la salle d'attente de son bureau pendant une heure et que à la fin, quand tu sors, tu n'as pas toujours rencontré l'investisseur. Mais par un concours de circonstances, ce qu'on appelle également la chance, c'est que lorsque tu repars découragé, tu le rencontres dans l'ascenseur. Est-ce que tu peux arriver à parler à cette personne-là pendant une minute dans l'ascenseur et lui demander d'investir dans ton projet? Est-ce que tu peux le faire? Justement, ce sont les techniques qu'on apprend dans Guerrier Mental. Justement, la technique d'apprendre à trouver un investisseur et de présenter ton produit en une minute. Parce que l'investisseur, lui, n'a pas de temps. Lorsque tu as la chance de rencontrer un investisseur, c'est quelqu'un qui est occupé. Donc, ça veut dire que si tu ne sais pas présenter ton produit en une minute, voilà comment tu perds quelqu'un qui aurait pu te faire gagner des milliers d'argent. Donc, il faut clairement qu'au bout d'un certain temps, on arrive à prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, si nos produits locaux sont aussi chers, c'est parce que les gens qui présentent les produits, qui se lancent dans l'entrepreneuriat en Afrique, ils se lancent avec leurs propres moyens. Et quand ils se lancent avec leurs propres moyens, au bout d'un certain temps, ils cherchent une certaine rentabilité. C'est la raison pour laquelle ces derniers-là comprennent la nécessité pour eux, au bout d'un certain temps, de faire en sorte que ils doivent gagner quelque part. Mais ne voyez pas ça comme étant le fait que les entrepreneurs locaux ne veulent pas, ne comprennent pas les réalités du terrain. Non, clairement. Ils comprennent bien, même aussi, ils veulent voir leurs chiffres aussi. Donc, c'est aussi simple que ça, les amis. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions là? Je vais prendre quelques questions. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Comme ça, on va prendre des questions rapidement. On va prendre quelques questions. Encore une fois, le lien est en commentaire. Hein, s'il y a des gens qui veulent intervenir ou encore s'il y a des gens qui veulent présenter leur entreprise ou leur business, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. N'hésitez pas à participer à l'émission parce que ici, il est question aujourd'hui de parler de ce qui se passe dans la communauté. Il se passe dans la communauté parce que, encore une fois, le but ici, c'est de faire en sorte que si on veut arriver à faire face aux autres, si on veut arriver à créer des choses qui sont plus intéressantes, il faut qu'on comprenne clairement le fait qu'au bout d'un certain temps, la connaissance est disponible. Mais le problème, c'est que j'ai comme l'impression que nous, dans la communauté, on confond regarder les informations à avoir l'information, c'est-à-dire avoir les nouvelles, voilà. C'est-à-dire, récemment, j'avais discuté avec quelqu'un et la personne me dit non, parce qu'on parlait un peu du savoir, de l'information. Le truc, c'est que la personne m'a dit non, mais moi, je regarde le journal, je regarde les informations tout le temps, je suis à la page et tout et tout. Et j'avais répondu à la personne en disant que il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a une grande différence entre regarder les nouvelles et avoir les informations. L'information, c'est ce qui est capable de changer ta vie du jour au lendemain. Mais alors que regarder les nouvelles, c'est ce qui communique la peur. C'est ce qui communique le fait qu'on va te dire que l'économie, ça ne va pas. On va te dire que l'élection, là, ceci, cela. On va te parler à chaque fois de tout ce qui ne va pas dans le pays. On va te parler de la violence dans le pays. Ça, ce sont les gens qui regardent les nouvelles. C'est-à-dire, regarder les nouvelles et avoir accès à l'information, c'est deux choses totalement différentes. Celui qui a accès à l'information, c'est quelqu'un qui est en train de changer sa vie au quotidien, en fait. Et ça passe par quoi? Ça passe par les livres que tu lis, ça passe par les conférences que tu assistes, ça passe par les programmes de coaching que tu assistes. C'est la somme de toutes ces informations-là qui sont appelées à changer ta vie, en fait. Mais les nouvelles, si tu penses que regarder les nouvelles, c'est prendre de l'information, ah, mon ami, je pense qu'il faut redéfinir un peu ce qui constitue, pourquoi pas, tes informations, en fait. Et justement, il ne faut pas confondre les choses, il ne faut pas les mélanger. Regarder les nouvelles, prendre connaissance de ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas l'information. Et c'est ce qui nous manque justement, ce qui nous manque dans la communauté, c'est l'accès à l'information. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que lorsque quelqu'un va chercher l'information et qu'il met ça dans un programme là où il veut aider la communauté, la plupart du temps, très peu de personnes achètent, en fait. Parce que la plupart du temps, ce que les gens vont dire, c'est que non, tes programmes sont trop chers. Mais c'est comme si, en fait, la personne, quand il allait chercher cette information-là, les gens ne réalisent même pas que c'est cette personne-là a dû également payer pour l'accès à ces informations. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que l'école, là, c'est un clin d'œil à nos amis, les étudiants, ceux qui veulent avoir les Master 20. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'école dans laquelle les gens vont quotidiennement, ça ne nous donne pas les informations. Ça ne fait que. En fait, l'école qu'on va à l'école, en fait, dans cette chaîne, c'est que ça nous prépare simplement à répéter tout ce que le professeur a dit, en fait. Et la dernière fois, j'ai discuté avec un monsieur ici dans ma ville qui est entrepreneur, qui a un bon parcours entrepreneurial. Je lui ai posé la question de savoir, toi qui étais professeur d'université, qu'est-ce qui t'a fait tout plaquer pour devenir aujourd'hui quelqu'un qui vend un commerçant, en fait? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a sa propre chaîne de produits africains, c'est-à-dire il fait venir les produits africains, il les vend ici dans ma ville, en fait. Alors que c'est quelqu'un qui était étudiant de l'université, c'est-à-dire quelqu'un qui était professeur d'université, mais il m'a dit en fait qu'il a tout plaqué justement parce que c'est juste terrible, quoi. Bref, on va prendre ce que John Lou dit. Alors, on va mettre également. Mais John Lou, ce serait intéressant si tu peux cliquer sur le lien pour échanger avec nous de façon audible. Ne penses-tu pas? Parce que là, tu donnes des. Tu participes bien, mais ce serait intéressant si tu pourrais cliquer sur le lien afin de partager avec nous ton point de vue. Voilà. Donc, on va mettre ce qu'il dit. Il dit, il faut lire et aller chercher la bonne information. Il y a de bons livres qui ont de la très bonne information, tout à fait. Tout à fait. Et ce qui est terrible, c'est que ces livres-là, on ne va jamais te les prescrire à l'école, hein, parce qu'on ne veut pas que tu aies l'information, justement. Ces livres-là, on ne va jamais te le prescrire à l'école. Et là, je vais vous donner un exemple simple. Là, j'ai un livre devant moi, là, ça s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. Ça, c'est un livre que je donne comme ça gratuitement aux personnes qui veulent changer leur vie financière. L'homme le plus riche de Babylone. Vous pouvez le trouver notamment sur Amazon pour les gens qui peuvent l'avoir de façon physique, ou encore, je crois il est également disponible sur YouTube en audio. L'homme le plus riche de Babylone. Mais encore, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a souvent des gens qui préfèrent avoir le livre physique. S'il y a des gens qui veulent avoir ce livre, L'homme le plus riche de Babylone, ça te montre comment est-ce que tu peux gérer ton argent, comment est-ce que tu peux créer ton épargne et comment est-ce que tu peux lancer ton business. L'homme le plus riche de Babylone. Si tu veux avoir ce livre, tu me contactes simplement. Je vais voir comment je peux te le fournir. Même si tu es en Afrique, je peux te le fournir. Il faut juste que tu me contactes. Donc, il y a des livres comme ça là qui changent la vie des gens quand tu commences à les lire. Ça, c'est simplement un exemple parmi tant d'autres. L'homme, le prêche de Babylone. Ce livre-là, il y a tellement de livres. Il y a La chef de ma mère de Ricardo Kanyama, mais là, c'est comme ça, c'est juste ce que j'ai sur la main aujourd'hui. C'est L'homme, le prêche de Babylone. C'est un livre qui change complètement ta vie, en fait. Voilà. Donc, le truc, c'est que c'est ça. C'est-à-dire, il faut clairement, voilà, il faut avoir de très bonnes informations si on peut arriver à changer le game. Parce que c'est celui qui a l'information, celui qui contrôle le game. Alors, John Lou, la chose que tu dois faire simplement, c'est que je vais remettre le lien en commentaire. Attends, je remets le lien en commentaire. Participer. Remets en commentaire. Alors, ce que je fais simplement, c'est que tu vas dans la barre de commentaires. Attends, je vais remettre le lien. Tu vas simplement cliquer sur le lien et tu vas apparaître à l'écran comme Erwin essayait d'apparaître à l'écran tout à l'heure. C'est aussi simple que ça. Tu vas simplement, tu cliques sur l'écran et tu cliques sur le lien. Voilà. Tu cliques simplement sur le lien et puis tu vas apparaître à l'écran. C'est aussi simple que ça. Donc, je remets rapidement le lien. Et pour toutes les personnes qui nous regardent, les amis, ce serait bien que vous puissiez également participer. On a besoin d'échanger dans la communauté, les amis. Ce qui bloque les gens dans la communauté, c'est la connaissance, c'est l'information. L'information qu'on nous refuse d'avoir à l'école. Parce que quoi? On veut nous rendre esclaves. Et aujourd'hui, si on veut briser les chaînes, la pauvreté, ce n'est pas une question de sorcellerie. La pauvreté, c'est simplement le manque d'information. Alors, John Lou, ce que tu peux simplement faire, c'est cliquer sur le lien que j'ai mis en commentaire. Tu cliques et tu vas apparaître à l'écran et tu vas pouvoir échanger avec nous sur ce sujet. Alors, donc, comme je disais, la pauvreté aujourd'hui, c'est simplement dû au fait que tu n'as pas encore eu accès à la connaissance. Parce que quand tu commences à chercher la connaissance, parce que la première richesse, c'est-à-dire, sur 100%, 80% de la première richesse, c'est d'abord la connaissance. Et ensuite, les 20%, ce sont les billets de banque. Mais maintenant, le problème, c'est que beaucoup de personnes, eux, ils veulent directement les billets de banque, qui sont les 20%. Excusez-moi. Alors, il dit ça ne marche pas. Alors, est-ce que tu es connecté à travers un ordinateur ou une tablette? Normalement, là-bas, si tu es devant un ordinateur ou une tablette, ça va passer. Mais dans tous les cas, ce n'est pas grave. Je vais t'envoyer le numéro WhatsApp là où tu pourras appeler en direct. Ce n'est pas bien grave. Attends, je veux le numéro WhatsApp pour que tu puisses appeler. Attends. Donc, c'est ça en fait. C'est le fait qu'aujourd'hui, si le niveau là où tu es actuellement, c'est parce que justement, tu n'as pas bonne information. Le problème, c'est que beaucoup de personnes dans la communauté, justement, eux cherchent d'abord les billets de banque. Mais alors que beaucoup de personnes se sont retrouvées du jour au lendemain à avoir des billets de banque et ils ont tout perdu du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'information. Il est d'abord mieux de chercher d'abord l'information pour que le jour là où tu auras l'opportunité d'avoir les billets de banque, tu ne puisses pas dire que, ah, j'avais l'argent. Tu ne puisses plus conjuguer. Tu ne puisses plus parler à l'imparfait, en fait. Tu vas fatiguer tes enfants avec ah, quand j'avais, quand j'avais de l'argent. Oh, tu sais, mon petit, j'étais quelqu'un de respecté. Non, c'est pas ça, en fait. Mais le problème, c'est que pour éviter le quand j'étais, c'est maintenant que ça se prépare d'abord avec les informations que tu as. Avec les informations que tu as. Quels sont les livres que tu lis aujourd'hui? Et puis aussi, il y a une chose, c'est que même quand je parle d'information, hein, quand je parle d'information, il faut pas tout lire aussi. Il faut lire les livres qui sont en rapport avec ton domaine dans lequel tu veux exceller. Parce que là aussi, il faut brasser l'information. C'est pas simplement tout lire et puis ça crée une espèce de désordre. Non. Le but ici, c'est de faire en sorte que tu dois brasser l'information que tu veux. Tu ne peux pas lire tout parce que Quand tu lis tout, au bout d'un certain temps, tu vas te disperser, en fait. Le but ici, c'est que tu ne puisses pas te disperser, mais que tu puisses arriver à faire en sorte que l'information, dans le, c'est-à-dire les sujets d'information dans lesquels tu veux exceller, tu dois arriver à être constant dans ça, en fait. Et moi, comme j'aime parler d'argent, voilà pourquoi je lis tout ce qui est en rapport avec l'argent. Parce que justement, je reste convaincu que c'est quand on aura assez de personnes suffisamment riches dans la communauté, là, on pourra clairement changer les choses. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, encore une fois, on veut l'information, mais on n'est pas prêt à payer le prix. On veut accéder à l'information, mais on ne veut pas se former. Mais la plus grande contradiction, c'est que on est prêt à aller payer des centaines de mille pour aller acheter des livres qui vont juste nous servir pour une seule classe. Et puis à la fin, on se retrouve chômeur. Et la plupart du temps, quand on se retrouve diplômé et chômeur, c'est que on se retrouve à ce que ce sont nos parents qui commencent à nous embaucher dans nos maisons. Parce que quoi, tu deviens fidèle abonné devant les chaînes Canal Plus au canapé, au salon. Ou encore, à chaque fois, tu deviens un fidèle abonné aux marmites de ta mère. Parce que tu n'as pas compris la nécessité pour toi de te former. Ce qui importait pour toi, c'était les diplômes. Et aujourd'hui, que tu te retrouves diplômé, mais sans fonction. Mais alors que si tu t'étais formé en parallèle, tu aurais pu comprendre la nécessité pour toi de déjouer les techniques du chômage. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que pendant que tu cherches à devenir salarié dans une entreprise, mais pose-toi la question de savoir l'entreprise que tu es en train de viser là, c'est quelqu'un qui avait réfléchi par rapport au fait que lui aussi voulait créer son business et il l'a fait en fait. Donc, John Lou, j'ai mis mon numéro en profil, le numéro WhatsApp en profil. Donc, tu peux clairement appeler et participer en direct, les amis. Donc, c'est comme je disais, c'est qu'au bout d'un certain temps, si on veut sauver l'économie de chez nous, de l'Afrique, il faudrait que donc d'abord, on comprenne la nécessité pour nous d'entreprendre ensemble. Et quand je parle d'entreprendre ensemble, de grâce, choisissez bien vos business partners. Parce que si vous ne choisissez pas les bonnes personnes pour entreprendre, ce qui va arriver, c'est que malheureusement, au bout d'un certain temps, vous allez le regretter. Quand tu es dans les affaires avec quelqu'un, j'ai envie de dire que ton business partner, c'est quelqu'un que tu parles plus que tu ne parlais même à ta femme. Parce que ton business partner connaît tout de toi et toi, tu connais tout de ton business partner. Et ça veut dire que si tu n'as pas choisi la bonne personne, tu vas le regretter amèrement. Donc, choisissez bien votre business partner. Mais si vous voulez simplement entreprendre seul, oui, allô?
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonsoir. Vous êtes en direct.
Oui, c'est John Lou. C'est moi qui envoyais des messages.
OK.
Okay. Ben, j'écoutais votre direct. Je l'ai pris en regardant c'est quand Master Nzamba envoyait un message. Là, j'ai vu ça sur sa page. Donc, je vais écouter. Là, pas que je l'ai cité. Je trouvais que c'était un sujet intéressant. C'est vrai que je l'ai pris, je n'ai pas vu le titre du sujet. Mais c'est quelque chose qui cadre un peu dans ce que je fais ou ce que je conseille à beaucoup de personnes.
Ok.
Donc voilà pourquoi j'ai fait quelques commentaires. Donc je trouve ça intéressant. C'est bien d'en parler et puis de conseiller les frères par rapport à l'investissement, aller chercher des projets ou à créer des projets. C'est vraiment très intéressant. Et comme je disais, la lecture est très importante. Si je prends l'exemple du livre que vous avez présenté tout à l'heure, L'homme le plus riche de Babylone, c'est l'un des livres que je conseille à beaucoup de personnes qui veulent avoir, moi j'appelle ça l'indépendance financière. Avoir l'indépendance financière, je dis, si vous voulez avoir l'indépendance financière, allez lire Père riche, Père pauvre ou lisez L'homme le plus riche de Babylone. Par la suite, quand vous auriez fini de lire ces deux livres, je vais vous conseiller d'autres livres qui sont intéressants comme Réfléchissez et devenez riche. C'est des livres qui ne vont pas vous rendre riche, mais qui vont vous permettre d'avoir des outils très simples, vraiment très simples, pour acquérir l'indépendance financière. C'est pas dire que vous seriez millionnaire, c'est juste dire que c'est que vous allez investir, vous allez facilement, si l'un de vos enfants vous demande que j'ai besoin d'un bonbon, au lieu d'aller gratter, attendre la fin du mois, le bonbon, vous le donnez facilement. Parce que vous avez pu épargner, vous avez fait des investissements. Donc, l'un des exemples que je prends souvent, c'est l'exemple de la dîme. Et je pense que la dîme est expliquée aussi dans l'un des livres « Père riche, père pauvre », c'est-à-dire le 10% qu'on vous demande à l'église. Mais prenez le 10% donné à vous-même. Et pendant un an, si vous réfléchissez bien, pendant un an, ce 10% va représenter quoi? Ne pensez pas à la semaine ou au mois, comme certaines personnes. Ce mois-ci, je vais faire quoi? Pensez à l'année. Donc, celui qui prétend la richesse, pense à l'année. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là aussi. Et l'autre cadre pour les investissements, pour aller chercher des investisseurs, comme je disais, ça dépend des projets, la manière dont vous présentez les projets pour attirer les investisseurs. Parce que si je prends le cas de l'immobilier, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Bah, ce n'est pas parce que vous avez commencé, mais vous pourriez, même si vous n'avez pas assez d'argent, vous planifiez bien votre projet, vous montrez le rendement, vous avez vos bons chiffres, juste avec Excel. Et à partir de là, vous allez voir des investisseurs. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui dort, ils ne savent pas quoi faire avec. Et vous présentez bien le projet et vous leur dites, après un an, deux ans, voilà le rendement qu'on aura, et je vous rembourse à tel pourcentage, c'est sûr qu'ils seront intéressés. La seule clause dans l'immobilier, c'est de dire, ben, si vous ne remboursez pas, moi je récupère tous vos biens immobiliers. Ben, si vous croyez à votre projet, logiquement, vous allez rembourser. Ça peut dans ce sens-là, quoi.
Exact, exact, exact. Ben, vous appelez de quelle ville?
Je suis au Canada.
Ah, ok, d'accord, ok. Ben oui, l'immobilier se porte bien au Canada aussi.
Exact.
Yeah, exact. Mais la chose, enfin, si vous voulez commencer, moi, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est que c'est d'abord la première chose, c'est de travailler sur le crédit. Je pense que vous le savez déjà. Travailler sur le crédit.
Oui, oui.
Voilà.
Mais il y a des gens qui ont peur du crédit. Hein. Il y a des gens parfois qui ont un mauvais crédit, qui se disent ouais, ben, je pourrais pas. C'est sûr que la banque ne va rien me donner. Je dis non. Si vous allez en partenariat, hein, même si vous avez un mauvais crédit, si vous avez des partenaires, vous pourriez être un investisseur passif. Il y a des investisseurs actifs et d'autres passifs.
Bien sûr.
Vous avez des partenaires et que si vous êtes cinq, sur les cinq là, c'est sûr que parmi les cinq, il y a un qui aura un mauvais crédit, mais le reste n'auront pas le mauvais crédit. Mais donc, la banque pourra vous qualifier par rapport au reste. C'est ça le truc.
Bien sûr.
Vous, on peur pour ça. Mais si vous mettez en groupe, vous êtes deux ou trois, bah, si deux ont un bon crédit, et que le troisième n'a pas de bon crédit, la banque va tenir compte des deux qui ont le bon crédit.
Ouais, mais d'après toi, comment est-ce que tu peux convaincre les Africains d'investir ensemble quand dans la communauté il y a tellement d'individualisme? On fait comment?
Au niveau des Africains, je sais que c'est difficile, mais tout dépend. Moi, je suis dans un groupe d'investisseurs immobiliers avec des Africains, un groupe juste des Africains. Mais ça a été difficile dès le départ. Mais le plus important, c'est d'abord de convaincre ses proches. À partir des proches, disons que si nous deux nous sommes amis, j'arrive à vous convaincre et vous allez convaincre l'un de vos amis. C'est de présenter la chose d'une autre façon, parce que ce que les Africains veulent, ils veulent le rendement le plus rapidement. Ils veulent avoir le gain rapidement. Mais c'est pas ça l'investissement. Parce qu'une entreprise a une durée de vie de 3 ans, minimum 3 ans, entre 3 et 5 ans. Même quand on bâtit une grande entreprise, c'est en 3 et 5 ans. Après 5 ans, là, si elle ne tient pas là, l'entreprise tombe. C'est la même chose aussi dans l'immobilier. Moi, l'argument que j'apportais aux frères africains, moi, je leur disais tranquillement, je dis, écoutez, la beauté de l'immobilier, c'est que la terre ne ment pas. Vous achetez un bien, ce bien-là prend de la valeur. Sauf si vous êtes dans des villes minières où la mine a fermé, après ça, bon, tout le monde déménage. Les propriétés perdent de la valeur. Mais si vous êtes dans des grandes villes comme Toronto, Montréal, New York, Washington, peu importe, là, le bien immobilier va prendre de la valeur chaque année. Si aujourd'hui vous l'avez acheté à 100 000 $, c'est sûr que dans 2 ans, il va valoir 100 000 $.
Ouais.
Et en prenant de la valeur, au fur et à mesure que vous, s'il prend de la valeur, c'est que vous faites de l'argent. Et là, vous payez votre hypothèque. Mais la beauté de la chose, c'est que vous vous appliquez, on applique le principe faire l'argent avec l'argent des autres. L'argent des autres, c'est qui? C'est la banque. Ce sont les locataires. Vous venez, la banque vous demande un pourcentage, 10%, 15%, 20%, dépendamment du type d'investissement que vous voulez faire. Ben, vous apportez cette mise de fonds, le down payment, là, cette mise de fonds de 20% ou de 10%.
Mm-hmm.
Ben, par la suite, qu'est-ce qui se passe? La banque, quand vous avez donné ça, quand vous allez auprès de la banque finance, supposons que le bien coûtait 200 000 dollars, vous avez donné 10% de 200 000, c'est 20 000 dollars. Donc, la banque va vous financer 180 000 dollars. Et sur les 180 000 dollars, là, vous avez des locataires. Votre hypothèque est remboursée par les locataires.
Ouais.
Directement par les locataires. Si vos calculs sont bien faits, bien sûr. Vous n'allez pas prendre quelque chose, là, vous allez encore sortir de l'argent de votre poche. Votre hypothèque est remboursée par les locataires. Deux ans après, trois ans après ou cinq ans après, dépendamment du terme de votre hypothèque, ben, vous allez refinancer. Facilement, vous allez faire un 50 000, un 100 000 de plus. C'est ça la beauté de l'immobilier. Et c'est comme ça que moi j'ai présenté ça à mes partenaires. Mm-hmm. C'est ça la beauté.
Yeah.
Ben, tous les hommes les plus riches du monde, là, ils ont investi là-dedans. Donc, que ce soit même Trump, les stars et tout le reste, ils ont investi là-dedans. Donc, c'est là où il faut amener les Africains. Et puis, je dirais depuis 10 ans, je vois beaucoup de frères africains qui s'intéressent à cela, qui sont là. Il y en a beaucoup. J'en croise beaucoup, j'en vois beaucoup. Ils sont là. Et ils ont compris.
C'est très bien. C'est très
bien. Répondu à votre question.
Tout à fait, tout à fait. C'est très bien. Et ça motive, ça permet de comprendre que on est en train de le peuple africain est en train de se lever parce que on était trop absent dans l'économie, alors que il y a tellement d'opportunités. Mais maintenant, par rapport à la question du jour, pourquoi, ça c'est je vais même pas avoir ton avis là-dessus, pourquoi chez nous en Afrique, par exemple, les produits locaux sont plus chers que les produits qui viennent de l'étranger?
Bah, c'est au niveau de... Attends, les produits locaux sont plus chers que ce qui revient de l'étranger?
Oui.
Et tout dépend de... Tout dépend, mais ça dépend des pays, là. Si on parle le Gabon, les pays, les produits qui viennent de l'étranger sont plus chers que les produits locaux.
Hein. Ouais, mais comment expliquer cela?
Mais c'est au niveau de l'État, ce sont les taxes douanières, c'est l'État. C'est l'État qui fixe les prix. S'il n'y a pas une, comment on appelle ça, s'il n'y a pas un contrôle des prix, chacun fixe les prix comme il veut, là. C'est comme la jungle, en quelque sorte.
Waouh. Donc, quelque part, ça n'encourage pas beaucoup les entrepreneurs locaux aussi.
Ben, tout dépend de la politique de l'État. Si la politique, prenons l'exemple du Nigeria.
Mm-hmm.
Le Nigeria aujourd'hui a plus de. Bon, si on parlait d'un côté, il y a beaucoup là, des multimillionnaires qui sont sortis. Je dis millionnaires en dollars, là, en français, c'est des milliardaires là.
Mm-hmm.
Depuis 20 ans là, ils sont sortis. C'est devenu des multimilliardaires. Ben, c'était dû à quoi? C'était, je pense, Jonathan, le président Godluck Jonathan.
Mm-hmm.
Il s'est levé au matin, il a dit non. Il faudrait que mon peuple soit sûr dans la liste des multimillionnaires. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait peut-être éliminer les taxes douanières pour les nationaux. Moi, je ne peux pas concevoir qu'un compatriote qui veut faire des affaires, il fait venir un conteneur de Chine, il arrive au Gabon, il paye 60% ou 50%. Tandis que l'expatrié, il arrive, il va payer 20%. C'est un peu dans ce sens. Mais si le compatriote paye déjà 50 à 60% de taxes douanières pour son conteneur, ben, il ne peut qu'élever les prix. Mais si on supprime les taxes pour les compatriotes, disons qu'on dit que c'est 5%, c'est pour motiver les compatriotes.
Ouais.
On enrichit les compatriotes.
Yeah.
C'est un peu ça. C'est faire ce que le Nigeria avait fait. Aujourd'hui, le Nigeria a plusieurs multimillionnaires. Multimilliardaire en français, pas.
Yeah.
Mais parce que Godluck Jonathan avait mis une politique quand il avait pris le pouvoir. Et cette politique l'a permis à beaucoup de Nigériens d'investir dans leur pays et d'avoir des marchés. Ça, c'est faire cela. Mais bon, c'est
compliqué. Ouais, non, tout à fait, tout à fait. en espérant que les choses changent, en espérant.
Tout dépend des politiques. Ce sont les politiques qui fixent, ce sont les politiques qui guident, mm-hmm. Tout dépend des politiques. Le taux de taxation douanière au Gabon est très, très élevé. Et ce n'est pas normal pour les Gabonais. Ce n'est pas normal. Logiquement, il devait être bas pour les... Il faut le baisser pour les Gabonais, pour motiver la population à avoir l'indépendance financière. Je prends un exemple. Je pense jusqu'en 2009, on pouvait importer des véhicules de plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Beaucoup de Gabonais ont compris, ils se sont dit, bon, moi, je vais en Belgique, j'ai mon 1 million, j'achète mon véhicule, mm-hmm. Je le ramène, je fais taxi avec, ou bien je le mets en landau, ou peu importe, je le vends, je l'achète 1 million, je le vends à 1 million 200, je viens de faire 200 dollars, enfin 200 000. Mm-hmm. Et après, j'achète un autre, je continue. Et beaucoup étaient rentrés dans ce business-là. Ben, en 2009, 2010, qu'est-ce que l'État a fait? Ils ont vu ça, ils ont dit non. Ils ont mis interdiction formelle de faire entrer les véhicules depuis de 3 ans. Ils ont révisé ça à 5 ans, mais depuis plus de 3 ans. Tandis que les véhicules de 5 ans, 10 ans circulent dans les pays européens, circulent dans les pays nord-américains, aux États-Unis, en France, et aux États-Unis, au Canada. On a des véhicules de 15 ans. Quand tu les vois, tu penses que le véhicule a 5 ans.
Yeah, tout à fait.
Hein, chez nous, on est interdit. On ne fabrique pas de véhicule, on ne fait rien. On interdit cela, soit disant qu'on veut lutter contre l'environnement, la couche d'ozone. C'est du pipeau. Bah, en gros, les gars voulaient couvrir, parce que tous, ce sont des gros actionnaires dans les deux tas qui sont au Gabon, les Volkswagen qui sont au Gabon. Et qu'est-ce que ça fait? Ça a coulé. Le petit peuple, le petit gars de Kingélé, qui avait déjà son petit business pour vendre des véhicules, pour faire son taxi. Ça l'a planté. Ça a planté beaucoup. Et ça, sont des choses, c'est le genre de mesures que les gouvernants prennent sans études préalables, sans aucune étude, sans rien, quoi. C'est que sans réfléchir, parce qu'ils pensent d'abord à leur intérêt, ils pensent pas à l'intérêt de la population.
Yeah.
C'est une réalité.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai été confronté à cela il n'y a pas longtemps. C'est vrai, c'est normal. Ouais. C'est difficile. En espérant que les choses changent.
Bon, on espère toujours, mais ça ne fait pas qu'on espère aussi.
Ah, ouais. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, je dis, il faut s'organiser autrement. Il faut s'organiser autrement. Peut-être créer de la richesse à l'extérieur, la faire entrer, ou bien, je ne sais pas. Hein. Il faut trouver tout problème a une solution. Moi, je suis un ingénieur, je sais que tout problème a une solution. Il faut trouver des solutions. Et puis, à partir de là, bon, aller plus loin. En gros, il faut s'organiser autrement et peut-être avoir des vrais patriotes au Gabon. Ouais. Ils vont penser d'abord au peuple, penser au Gabon avant de penser extérieur.
Ouais. Mais effectivement, le truc, c'est de clairement comprendre que aller investir en Afrique, c'est un jeu d'échecs. Donc, du coup, il faut d'abord sécuriser tes avoirs si tu es à l'étranger. Est-ce que tu vois?
Non, bon. C'est un jeu d'échecs, ça peut l'investissement en Afrique est parfois très payant.
Oui, tout à fait.
Tu peux te retrouver du jour au lendemain aussi sans rien, parce que quand quelqu'un veut te mettre les bâtons dans les roues, il crée quelque chose et puis il y a des trucs. C'est ce qui est un peu. Donc, en gros, c'est de revoir un peu la législation pour sécuriser les investissements des compatriotes mm-hmm. dans leur propre pays.
Yes.
Au Rwanda, ils l'ont fait, là. Je vois le Rwanda, là, beaucoup d'étrangers n'investissent pas au Rwanda. C'est eux quand même. On voit en Éthiopie, aujourd'hui l'Éthiopie l'a fait, le Nigeria nous a montré l'exemple, l'Éthiopie le fait. On peut le faire, mais tout dépend de la volonté politique. Je ne vois pas pourquoi un Gabonais qui fait ses œufs, ça ne vient acheter, on met les bâtons dans les roues parce qu'il faut forcément acheter les œufs à la SMAD. Ou bien faire venir les œufs du Cameroun, tandis qu'on peut le faire au Gabon. Il y a plein de choses, Mais tout dépend des politiques. Tout dépend vraiment des politiques. Et puis, si on veut enrichir le peuple, il y a certains. Si je prends dans le côté alimentaire, il y a certaines denrées qu'on doit bloquer. Pourquoi faire venir le manioc du Cameroun, tandis qu'on a le manioc au Gabon? Il faut le développer cela. il y a plein de choses. Hein, il n'est pas tabou.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. D'accord, merci, merci beaucoup de nous avoir partagé ton point de vue, John Lou, et en espérant que tu nous reviennes prochainement.
Bah, je vais m'abonner à ma page. Parce que moi j'ai vu ça, c'est Maître Zamba qui l'a partagé. Et puis comme je suis abonné à lui, quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, sujet intéressant. Je pense que c'est bien d'échanger. Mais c'est comme moi je dis à beaucoup de frères, lisez. La lecture, c'est important. Allez lire les bons livres.
Exact, exact. Et même pour finir, je ne sais pas si vous connaissez La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama.
Oui, ce livre, je le connais. Mm-hmm. J'ai regardé les vidéos de ce monsieur. Mm-hmm. Mais j'ai cherché ce livre sur Amazon. Il ne l'avait plus.
Non, non, non. Je suis représentant de son livre. Si vous voulez son livre, je peux vous envoyer le lien et puis je peux vous l'avoir.
Ok, si vous pourriez me l'envoyer, ça m'intéresserait beaucoup parce que je voulais le commander. Je sais que mon frère me l'a envoyé par PDF.
Uh-huh. Moi, je suis pas très... La lecture numérique, là, c'est pas évident pour tout le monde, yes.
Moi, je suis pas très lecteur numérique. J'aime quand j'ai mon livre, je suis allongé sur mon canapé. Uh-huh. Et là, je le lis.
Tout à fait.
Mais j'ai pu regarder ses vidéos. Ce monsieur-là, il m'a impressionné.
Tout à fait.
Je l'ai suivi, j'ai même dissimulé ça des amis. J'ai dit, regardez les vidéos de ce monsieur, c'est un exemple là. Mm-hmm. Il n'est pas loin, il est là à côté au Congo. Là.
Ouais.
Donc, il y a des exemples comme ça. Il y a lui, il y a, comment il s'appelle, celui qui fait des interviews avec lui, là, le Camerounais. Il y a un jeune Camerounais aussi qui est ici à Montréal. Mm-hmm. Lui, il est investi dans l'immobilier. Lui aussi, c'est des... C'est des vidéos qui sont sur YouTube, que j'ai l'habitude de suivre. Je regarde. Ça peut du Covid, les gens en regardant leur formation, aller suivre leur formation. Quoi. Mm-hmm. Ah, bon. Mais La chèvre de ma mère, là, c'est une bonne histoire.
Non, tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est que, regardez, on va faire un truc. Vous vous abonnez à la page, vous likez simplement la page. Parce que là, on est en live en même temps sur Facebook et sur YouTube. Mais dans tous les cas, likez juste la page Guerrier Mental et vous m'envoyez juste un message inbox. Et comme ça, je vais vous envoyer le lien. Là, vous pouvez acheter le livre et être livré à peu importe là où vous vous trouvez.
Ok, ça marche.
Voilà. Ok, donc on se dit à tout à l'heure.
Ok, merci.
Merci. Ouais, bye. Salut Charna, comment vas-tu mon frère? Oui, effectivement, je peux également livrer au Gabon, c'est pas un problème. C'est-à-dire, ça dépend. Si tu veux le livre L'homme le plus riche de Babylone ou bien si tu veux La chèvre de ma mère, c'est juste à toi de préciser. Et puis, pour ce qui concerne La chèvre de ma mère, justement, il n'y a pas de problème. Tu peux être libre et aller pour vivre. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Et puis, voilà, je profite aussi de faire cette annonce-là. S'il y a des personnes qui veulent acheter le livre La chèvre de ma mère, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous envoyer le lien là où vous pouvez acheter le livre et vous serez livré peu importe là où vous vous trouvez en fait. Et maintenant, si vous voulez acheter le livre L'homme le plus riche de Babylone, c'est-à-dire ça aussi, je peux vous le livrer parce que je sais qu'au pays, notamment au Gabon et en Afrique, ce n'est pas évident d'avoir, je ne suis même pas sûr qu'Amazon est effectif chez nous en Afrique, mais dans tous les cas, ce que je peux faire, c'est que si vous passez des commandes, des bouquins que vous voulez, je peux les acheter et vous les envoyer automatiquement là où vous êtes. N'hésitez pas à me contacter inbox et je me ferai le plaisir de vous envoyer les livres que vous voulez. Parce que, les amis, encore une fois, on est à l'heure du 21e siècle là où la connaissance est accessible à tout le monde. Mais le problème, c'est que ceux qui vont accéder à la connaissance, ce seront les plus curieux. Si tu n'es pas curieux, tu n'auras pas la connaissance. Et il y a des gens, justement, qui sont déjà prédestinés à être curieux et ils ont la connaissance en permanence. Et ce qu'ils font, simplement, c'est que si vous vous rapprochez de ces personnes-là, ils vont vous donner ce que vous recherchez. Il y a des gens qui sont déjà prédestinés à avoir la connaissance en permanence. Et ces personnes-là, justement, quand ils accèdent à cette connaissance-là, justement, ils sont maintenant prêts à la distribuer autour de vous. mais n'hésitez pas à contacter ces personnes-là. Et c'est la raison pour laquelle la chaîne Guerrier Mental existe, la chaîne Warren et Asiana existe. Justement, c'est pour pallier au fait que si la connaissance n'est pas accessible à tout le monde, nous qui avons la connaissance, nous, on vient justement distribuer ça autour de vous. Donc, s'il y a des livres que vous voulez acheter, notamment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois me disent qu'ils n'ont pas, ils sont allés sur Amazon, ils n'ont pas trouvé La Chèvre de ma mère. Maintenant, là, c'est disponible, justement. On a le lien. On est rendu, nous-mêmes, notre équipe est rentrée en contact avec Ricardo Kanyama et on a justement signé un partenariat là-dessus, là où on représente clairement sa marque et son livre. Donc, justement, on est capable de distribuer La Chèvre de ma mère partout là où vous voulez qu'elle soit disponible. Voilà. J'ai cherché ce livre dans beaucoup de librairies à Libreville. Mais non, c'est pas évident. Tu peux pas avoir ça à Libreville, dans les librairies. C'est pas évident, Charnac. C'est pas évident d'avoir ça là-bas. Donc, c'est la raison pour laquelle le livre est disponible. Contacte-moi simplement. Je crois que tu as le numéro WhatsApp. N'hésite pas à nous contacter sur WhatsApp. Et puis, on va se faire un plaisir de commander le livre pour toi et tu vas le recevoir. Et le truc même, c'est que il y a une représentante de comment on appelle ça, des gens qui veulent acheter les livres au niveau du Gabon même. Mais c'est seulement si tu n'es pas actionnaire dans le projet, tu ne pourras pas connaître. Donc, c'est la raison pour laquelle contacte le numéro qui est juste en commentaire ou bien tu rentres en contact avec Asiana. Elle va t'orienter là où tu pourras clairement te procurer le livre « La Chèvre de ma mère » depuis Libreville. Parce que actuellement, on est à l'ère là où la connaissance est disponible. Tu ne peux plus être pauvre aujourd'hui parce que tu n'as pas la connaissance. Parce que ce qui nous différencie en fait entre les pauvres et les riches, c'est que les riches, ils ont la connaissance. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que l'information, c'est 80% de la richesse. Et 20%, c'est simplement les billets de banque. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, comme je le disais, dans la communauté noire, on est plus axé sur les 20%. C'est la raison pour laquelle vous voyez, du jour au lendemain, quelqu'un peut avoir une forte somme d'argent et du jour au lendemain également, il se retrouve pauvre. Parce que quoi? La personne a focalisé ses efforts sur les 20%. Au lieu d'abord de focaliser les plus grands efforts sur les 80%. Parce que celui qui a capitalisé sur les 80%, quand il a une opportunité d'avoir de l'argent, il ne va jamais la rater. Mais celui qui a capitalisé sur les 20%, lorsqu'une opportunité d'argent arrive, il va la rater. Pourquoi? Parce que justement, il va toujours partir du principe que oui, mais quelqu'un ne m'a pas enseigné comment est-ce que je devais investir cet argent, voilà comment j'ai perdu cet argent. Non! Non! C'est trop facile aujourd'hui de dire que je n'avais pas quelqu'un. Aujourd'hui, la connaissance est accessible à tout le monde. Et quelqu'un qui a la connaissance, justement, si on met ce programme en place, justement, c'est parce qu'on veut que tu ne puisses plus avoir cette excuse de dire que je n'avais pas la connaissance. Ne te focalise pas sur les 20%. Focalise-toi d'abord sur les 80%. Parce qu'une fois que tu as les 80%, tu peux atteindre tout ce que tu veux. Maintenant, atteindre les 20% n'est qu'une question de temps. Mais où est-ce que tu investis d'abord tes 80%? C'est d'abord ça le plus dur. Donc, les amis, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vais vite les prendre. Ou s'il y a des gens qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Donc, et puis, je vais m'en aller. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas. Je peux encore prendre 2 ou 3 questions comme ça. Mais les amis, formons-nous. Il y a des batteries de formation qui sont disponibles sur la plateforme Guerrier Mental. Tout ce que vous avez simplement à faire, c'est de nous contacter et on va vous livrer ces informations-là. Récemment, là, on vient de finir une formation sur comment devenir un bon vendeur. Parce que là aussi, on a constaté, mon équipe et moi, c'est qu'il y a des gens qui ont des bons produits, mais qui ne savent pas délivrer leurs produits. Donc, justement, on a créé une formation sur comment vendre ton produit ou comment vendre ton service. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par cette formation-là, contactez-nous inbox et on va se faire un plaisir de vous donner cette formation-là. Que vous soyez même en Afrique, il y a les moyens de paiement là où vous pouvez accéder à cette info, à cette formation-là. Encore une fois, il y a des gens qui ont des très bons projets, qui ont des très bons projets, j'y arrive, qui ont des très bonnes idées, mais qui ne savent pas comment délivrer leurs idées-là. Justement, on a mis une formation en place qui a pour but de pallier à ce problème. Encore une fois, comme je le disais, aujourd'hui, tu ne dois plus avoir d'excuse de dire que je n'avais pas l'information. L'information est maintenant à ta porte. J'ai même envie d'aller plus loin en disant, je vais pousser l'euphémisme en disant que l'information est maintenant devant ton téléphone. Ça veut dire que tu ne peux plus dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'information parce que aujourd'hui, tu peux juste cliquer, tu rentres sur Facebook, tu tombes sur un live comme ça là, tu te donnes l'information. Donc aujourd'hui, tu ne dois plus avoir d'excuse de dire que l'information, je ne l'avais pas. Et pour la petite histoire, pour le mois de décembre, je suis en train de m'organiser avec mon équipe. On va vous contacter les dates bientôt, mais on va faire une conférence dans la ville du Nebraska, dans Omaha, pour joindre les entrepreneurs africains qui sont dans le Nebraska, même dans les États-Unis. Ce n'est pas seulement une question du Nebraska. C'est-à-dire, si tu es dans les États-Unis et que tu es un entrepreneur africain ou que tu es quelqu'un qui veut te lancer dans l'entrepreneuriat, ce sera le moment pour toi de venir écouter et de venir participer à nos formations, nos journées de formation en présentiel, là où tu pourras, pourquoi pas, bénéficier de notre accompagnement. Donc, ce sera pendant le mois de décembre. On est en train de réfléchir sur les dates, mais dans tous les cas, quand on trouve la date et quand on finit avec les réservations de la salle, on va venir vous mettre toutes les informations. Formez-vous, les amis, formez-vous, parce que si aujourd'hui, on veut changer nos économies en Afrique, si également on veut impacter nos familles, si on veut impacter notre communauté, ça passe éventuellement par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, si tu deviens salarié, tu n'apportes rien dans la vie de quelqu'un si ce n'est que payer tes factures. Tu n'apportes rien dans la vie de quelqu'un si ce n'est que prendre soin de ta famille. Mais alors que, comme dit Ricardo Kanyama, c'est quand tu commences à avoir l'eau et à manger que tu commences à devenir philosophe pour les autres. C'est-à-dire quelqu'un qui, comme moi, je prends un exemple simple parce que je ne peux pas parler loin. Quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui a, j'ai envie de dire, entre guillemets, un semblant de confort. Je peux simplement me limiter à ça. Mais je me dis qu'au bout d'un certain temps, ce n'est pas ça. Le bout d'un certain temps, c'est que je trouve mon essence et ma mission accomplie que si j'apporte un plus dans la vie de mon prochain, si j'apporte un plus dans la vie de l'autre. Voilà pourquoi je n'aime pas me contenter. Quand tu commences à te contenter, c'est que tu as commencé à échouer. C'est la raison pour laquelle ça m'excite et ça me rend productif quand j'apporte un plus dans la vie de l'autre. Parce que je pense que sur cette terre, nous sommes des énergies et on doit impacter les autres de façon positive. Donc, les amis, n'hésitez pas, formez-vous. Il y a des batailles de formation qui continuent d'arriver. Donc, si vous voulez accéder à ces informations-là, contactez-nous simplement inbox ou encore contactez le numéro de Warren et Asiana. Vous allez poser toutes vos questions ou encore vous nous laissez simplement un message en commentaire. Mais dans tous les cas, formez-vous parce que le but ici, c'est de faire en sorte que si aujourd'hui l'Afrique est toujours au même niveau qu'il est, c'est simplement par rapport au manque d'informations, au manque de connaissances. Donc, on va se dire, s'il n'y a plus de questions, je vais m'en aller. Mais la prochaine fois, je vais faire un live la prochaine fois également, là où je vais communiquer sur les gens, sur l'école, sur la formation en Afrique, parce que je réalise que beaucoup d'entre nous, on a étudié des domaines qui, malheureusement, au bout d'un certain temps, ça ne porte pas un plus dans la communauté. Et au bout d'un certain temps, tout ce que ça fait, c'est que ça nous garde juste dans le côté là où on devient des simples salariés. Et ça aussi, il faut que ça change. Il faudrait qu'au bout d'un certain temps, même quand tu vas à l'école, tu dois être quelqu'un qui réfléchit à se dire que si aujourd'hui, quand je finis les études et qu'on ne m'embauche pas, je fais comment pour ne pas vivre dans la misère ou bien pour ne pas finir au salon à regarder les télénovelas ou à regarder les matchs à longueur de journée et à siffler les petites filles au quartier. Donc, les amis, formez-vous, n'hésitez pas à nous contacter. On va se faire un plaisir de vous accompagner. Et également, n'oubliez pas de rentrer en contact pour les personnes qui sont en Afrique, qui veulent lancer des business. Notamment, on a notre entreprise qu'on vient de faire sortir, qui s'appelle Lelo Production LLC, qui s'occupe de lancer des entrepreneurs, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, qui veulent se lancer dans la commercialisation des produits. On a déjà notre site qui est là, cliquez simplement, vous allez rentrer en contact avec nous, peu importe. C'est-à-dire que si vous avez déjà une niche dans laquelle vous voulez vous lancer et que vous estimez que vous avez déjà une niche dans laquelle vous voulez vous lancer et que vous manquez simplement les produits, vous nous contactez, on se fait un plaisir d'acheter les produits pour vous et de vous les envoyer pour que vous commencez votre parcours entrepreneurial. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, laissez-nous des messages et puis appelez-nous afin qu'on se fasse un plaisir de vous accompagner. Donc, c'est sérieux, Charnak, c'est sérieux cette histoire-là. La pauvreté, c'est d'abord dans la tête avant qu'elle se manifeste dans tes poches. Mais pour que tu puisses arriver à ce qu'elle ne puisse pas se manifester dans tes poches, change d'abord ce que tu as dans la tête. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine et bien des choses à vous et surtout, restez connectés et surtout, lisez beaucoup, lisez beaucoup, lisez beaucoup. Ne lisez pas, faites beaucoup de recherches, allez vous balader sur YouTube, lisez beaucoup. Ne faites pas simplement des devoirs de recherche par rapport au professeur m'a donné un livre, je dois lire. Non, essayez d'ouvrir votre esprit, les amis. Donc, on se dit à la prochaine et à bientôt.